Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La liberté du despote. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Enregistrement, CVRP. Monsieur Adrien Lecœur est à son bureau avec le chef du personnel. Ils sont tous deux debout. Le chef du personnel est un petit homme maigre à moustache. Voilà la citation, monsieur Lecœur. Rêve illimité si nous ne leur donnons pas satisfaction. Adrien Lecœur hausse ses épaules.
Si nous leur donnons satisfaction, c'est la faillite. Les carnets de commandes sont pleins. Mais si nous faisons ces commandes avec un supplément financier, produiront à perte, car les prix ont été calculés juste à cause de la concurrence étrangère. Il faut expliquer cela au personnel.
Je doute qu'ils comprennent ce langage. Ils vont vous parler de la hausse des prix, l'augmentation de la production, etc.
S'ils continuent à faire grève, nos commandes vont diminuer à cause du retard que nous aurons pris et de la hausse des prix que nous serons obligés de faire.
Bien, je vais essayer de leur parler. Le chef du personnel sort du bureau. Adrien Lecœur va se rasseoir à son bureau. C'est un homme grand, mince, cheveux bruns, visage très maigre. Il est habillé d'un costume gris, à 50 ans. L'entreprise qu'il dirige est une usine qui fabrique des vêtements de prêt-à-porter. Deux heures plus tard, l'on frappe à son bureau.
Entrez!
Entre le chef du personnel qui s'approche du bureau.
Il refuse de reprendre le travail.
Attendons un peu, ils reprendront peut-être d'eux-mêmes.
Deux heures plus tard, il est 21h. Adrien sort de son usine qui se trouve à Lyon, quartier Gerland. Ce sont des bâtiments neufs de 2 étages au fond d'une cour parking. Il prend sa voiture. Il prend la direction pour rentrer chez lui. Il habite, lui et sa famille, dans une villa à Caluire. La maison se trouve sur une hauteur qui plonge la Saône, près de l'association Le Petit Versailles. Elle se trouve au fond d'un grand parc. C'est une bâtisse de 2 étages du début du siècle. On y rentre par un perron, grand couloir qui mène à la salle à manger, salon, bureau et cuisine. Au fond du couloir se trouve un grand escalier de pierre. Premier étage, 2 salons, fumoir, bibliothèque. 2e étage, les chambres et salle de bain. Toute la maison est meublée en style restauration, mobilier d'époque. La voiture devant le perron, il sort de voiture. Et sonne à la porte d'entrée. C'est la bonne qui lui ouvre. C'est une petite jeune brune.
Bonjour Françoise.
Bonjour monsieur. Et il se dirige à son bureau. Il dépose sa serviette sur une chaise. Mais juste avant d'entrer dans son bureau, il entend parler. Il se penche pour écouter. C'est la voix de son fils.
Oui, ce sera un film formidable. Et j'ai justement besoin de vous.
Pourquoi faire?
Une fille comme vous, l'on trouve toujours à l'exploiter. Je ne sais pas, moi, vous pourriez faire des photos de plateau.
Je ne l'ai jamais fait.
Le père hausse ses épaules et se redresse.
C'est encore moi qui vais payer une fille qui servira à rien.
Il se dirige au salon. Sa femme discutant avec une femme, toutes deux assises l'une contre l'autre sur un canapé. Elles ne font pas attention à lui. Sa femme est une femme maigre, sèche, de 50 ans, les cheveux courts, le nez long, le visage autoritaire. Elle est habillée d'un pantalon noir et d'une chemise blanche avec une cravate rouge. Passant devant elle,
« Bonjour mesdames !»
Sans le regarder, sa femme lui dit
« Bonjour Adrien !»
Il va s'asseoir sur un fauteuil. Un journal qui se trouve sur une table basse devant lui. Plus tard. Il plie son journal. Regarde les deux femmes qui parlent toujours entre elles. Soupire, se lève. Il sort du salon. Monte à sa chambre. Commence à se déshabiller pour prendre sa douche. On frappe à la porte. Il venait de quitter son pantalon. Il le remonte.
Entrez!
Sa fille, elle est grande, maigre, a des lunettes en métal, elle est habillée d'une robe beige, elle s'approche de son père.
Peux-tu me donner 500 francs?
Tu deviens cher, cela fait la troisième fois que tu me demandes cela cette semaine.
C'est pour aider des squatters.
Eh bien justement, s'ils sont squatters, ils n'ont pas de loyer à payer.
Peut-être pas de loyer à payer, mais ils ont des tas de choses à acheter. Le père est au chômage et il a 6 enfants à nourrir en plus de sa femme.
Et tu veux qu'en plus de vous, je nourrisse une famille de 6 enfants?
Il prend de sa veste, qui a mis sur le dossier d'une chaise, son portefeuille. Il ouvre le portefeuille et en sort des billets. Il les compte. Et les donne à sa fille.
Tiens, tu vas nous mener à la ruine, surtout qu'en ce moment les affaires vont mal en entreprise.
Merci.
Et elle sort de la chambre. L'on frappe à la porte de sa chambre. C'est sa femme qui lui parle derrière la porte.
Adrien, tu te souviens ce soir nous ressoulons. N'oublie pas de te préparer.
Bon.
Il soupire.
Je ne pourrai même pas me reposer.
Sérieux? Ne faites pas attention à ça, ni à ses rêves d'avenir glorieux.
Ce n'est pas ça. Je compte la mesure.
2 heures plus tard, la maison est pleine de monde. Denise, la femme d'Adrien, reçoit ses amis. Sa femme va et vient entre les invités. Adrien, fatigué, que personne ne voit, s'assoit dans un coin reculé du salon.
Ils ne resteront pas trop tard, comme c'est un jour de semaine.
demi-heure plus tard, il voit arriver vers lui son fils. C'est un jeune homme de 25 ans, taille moyenne, mince, cheveux bruns, la bouche trop petite. Il est habillé en jean, c'est le seul de la soirée. Avec lui, il se trouve une grande fille, blonde, mince, un peu plus grande que lui. Elle est habillée d'une robe du soir blanche. Le fils n'a pas vu son père. Il s'assoit avec la fille sur un canapé à côté de lui. Elle lui dit « Je trouve ça formidable ce que vous faites. Ces romans photos sont fantastiques. Et vous n'avez trouvé personne pour les publier ?»« Non. Vous faites toutes ces choses-là tout seul, sans que personne ne vous aide. Et pour votre film aussi, l'on ne vous aide pas, même pas votre famille. »
Surtout pas ma famille. Que pense votre père de tout cela?
Mon père, c'est un homme qui ne pense qu'à l'argent. Il n'y comprend rien.
Énormément.
C'est parfait. Et que pensez-vous de notre sud et de sa personne?
Le lendemain soir, son fils entre dans son bureau. Porte à la main une chemise rouge.
Bonjour père, voici les factures.
Il pose la chemise sur le bureau du père.
Les factures de quoi?
De la préparation du film.
Ah oui.
Le père ouvre la chemise. Regarde les factures.
C'est que toutes ces notes de restaurants, d'hôtels et de trains.
C'est pour les repérages, voir les endroits où l'on va tourner.
D'après ce que je vois, les endroits sont très variés. Et vous êtes toujours deux. Pourquoi?
Le fils aux épaules. C'est ma stricte.
Ah oui.
Le père ferme la chemise.
Figure-toi, c'est que j'ai entendu ce que tu disais hier au soir à la fille.
Le fils rougit. C'était un jeu.
Ne raconte pas de bêtises.
Il pousse la chemise vers lui.
Tu as quitté tes études sans diplôme. Ta mère t'a fait réformer ton régiment. Tu es venu me voir avec tes photos. M'a dit que tu avais du talent artistique et que tu désirais faire un film et demande que je t'aide. J'ai regardé tes photos, je n'y ai rien compris. À ces histoires seulement vues de belles filles. Tu m'as lu un scénario incompréhensible. Je me suis dit que je n'y comprenais peut-être rien et voulu te donner ta chance en t'aidant. Depuis que je t'aide et finance tout, tu passes ton temps à dépenser mon argent à draguer des filles en leur faisant miroiter en rôle dans le film. Voilà 2 ans que je finance ce satané film qui n'est jamais prêt. C'est normal, tu passes ton temps à courir les filles et à dire à tout le monde que je suis un idiot illettré. Cela suffit, je ne t'aide plus, l'idiot a compris.
Mes pères...
Ramasse ta chemise.
Jacques ramasse sa chemise.
Vous n'êtes qu'un.
Le père se lève furieux.
Donne-moi le camp.
Le fils sort en claquant la porte.
Il va bouder un moment, puis fera mine de s'en aller. Sa mère va le supplier de rester. Il restera, parce que c'est un feignant et un lâche. Thank you.
Une heure plus tard, sa femme entre dans son bureau. Elle s'approche de lui.
Tu dis à Jacques, il menace de s'en aller. Tu n'es qu'une brute.
C'est moi qui suis une brute. Monsieur me traite comme le dernier des derniers. Il passe son temps à draguer les filles avec mon argent. Et en plus, il parle de moi avec ses pains bêches, comme si j'étais un imbécile violent qui ne pense qu'à l'argent. C'est ça que j'ai entendu hier au soir. Et ce soir, il a le culot de venir me demander de l'argent. C'est lui ou moi qui pense qu'à l'argent.
Tu ne comprends pas. C'est un artiste. Il s'exprime d'une autre façon que nous.
Alors, lorsqu'il dit que son père est un idiot, qu'est-ce qu'il veut dire?
Elle hausse ses épaules.
Il cherche à savoir comment allait agir la fille.
Pour ce qui est de moi, il sait comment je réagis. Oh, j'agis.
Écoute, je ne veux pas que Jacques nous quitte. Il est fragile, sensible. Tout seul, je ne sais pas ce qu'il serait capable de faire. J'ai peur qu'il ne fasse une bêtise. Je ne veux pas qu'il nous quitte.
Ne t'en fais pas de soucis. Il ne partira pas. La pension est trop bonne.
Tu vas l'aider.
Il hausse ses épaules.
Si tu ne l'aides pas, je demanderai à mon amie Armande qu'elle dise à son mari de te laisser tomber.
Tu demanderais cela? Tu sais très bien que ce serait notre perte à tous. Tu connais les difficultés que j'ai en ce moment.
Je m'en moque.
Bien, tu as gagné. Ton feignant de fils peut continuer à ne rien faire.
Ne sois pas idiot. Tu sais très bien que ce film, il le fera.
Dois-je prendre un autre chemin, monsieur?
Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?
Encore une foutue manifestation. Les ouvriers des usines.
Les ouvriers sont toujours en grève. Les clients annulent leurs commandes. L'on crie « Patron SS ». Un soir, sa fille vient le voir à son bureau. Elle s'approche de lui.
Tu n'es qu'un salaud de ne pas donner cette augmentation à ces pauvres gens.
Et toi, tu es une impolie.
J'aime mieux être une impolie que de faire souffrir et mourir de faim des centaines de personnes. Pourquoi ne leur donnes-tu pas cette augmentation?
Que si je le faisais, ce serait ma ruine.
Il hausse ses épaules.
Tu exagères. Augmente tes prix.
Si je les augmentais avec la concurrence étrangère, je serais aussi foutu. Mon carnet de commandes était rempli, mais grâce au juste prix. Je ne peux tout de même pas faire marcher l'entreprise à perte. Ce serait ma ruine, elle leur aussi.
Ne raconte pas d'histoire. Oh, vous les capitalistes.
Vous les capitalistes. Et toi, tu te crois de leur côté? C'est facile d'avoir des idées sociales en vivant dans le confort, le luxe. Est-ce que tu crois que ta voiture de sport fait très militante de gauche? Vends-la et donne l'argent aux grévistes. Prie-toi de tes vacances de neige aussi à Courchevel.
Tu n'es qu'un imbécile.
Elle lui tourne le dos et se dirige vers la sortie.
Bon, je suis réaliste.
Elle ouvre la porte et sort. Adrien dans son lit n'arrive pas à dormir. L'excitation de la journée, le manque d'exercice physique et aussi cela fait quelques semaines qu'il n'a pas couché avec sa femme après cette tournée. retourner. Il décide d'aller dans la chambre de sa femme. Il se lève. Il met ses pantoufles et sort de la chambre. Frappe à la chambre de sa femme. De réponse, il entre. Pièce est dans le noir, il voit le blanc des draps, il s'approche. Se penche sur le lit, voit sa femme endormie, Denise. Pas de réponse, il se couche à côté d'elle. Il lui caresse les cheveux. Elle sursaute et se réveille.
« Ce n'est que moi, n'aie pas peur. »«
Que fais-tu ici ?»«
Rien. »
Il lui caresse les bras nus.
« Ça ne va pas, non ? Sors de mon lit. »«
Mais... »
Elle hausse ses épaules.
« Je ne veux plus que tu viennes me voir pour cela, c'est dégoûtant. »«
Dégoûtant ? Comment cela ? Je ne suis pas dégoûtant, je t'ai fait 2 enfants. »«
Et alors ? Tu dois sortir de mon lit. Je te dis de sortir de mon lit.
Tu es ma femme.
Ce n'est pas une raison.
Il lui caresse les seins par-dessus sa chemise.
Va-t'en. Tu me dégoûtes. Je ne veux pas que tu me touches. Je ne veux pas. Je ne veux pas.
Ça va pas, non ? Ça va. J'ai compris.
Il sort du lit.
Demande si tu n'es pas un peu lesbienne.
Et il sort de la chambre.
Une grève pendant que les autres font la guerre est à traite. Nous sommes le peuple, vous devez nous respecter.
La grève continue. Comme il ne peut pas travailler dans son usine, il décide de faire la route pour trouver des clients. Nous sommes en hiver. En hiver 1991, et l'hiver est très vigoureux. Direction des Alpes. Il doit retrouver dans un hôtel de Chambéry un client italien. Il est parti tôt de chez lui, il faisait encore nuit. route par endroits verglacés. Il ne peut pas rouler vite. S'arrête devant un café et restaurant des Échelles pour manger un peu et boire un café bien chaud. Il rentre au café. Il n'y a qu'une cliente. C'est une femme de 25-30 ans, blonde, habillée d'un manteau de fourrure beige. Adrien la trouve belle et séduisante. Elle écrit et a sur la table une pile de revues et une tasse de café. Adrien se met à une table un peu plus loin. Il commande un café, des croissants et un morceau de tarte aux pommes. De manger, cela lui fait du bien. Et puis, il s'aperçoit que le voyage le détend. Il n'a pas sa famille près de lui, ni les ennuis de l'usine.
Représentant, ce n'est pas si mal que ça.
La femme a fini d'écrire. Elle bouchonne son stylo à plume, boit son café.
Tout à coup,
ses yeux se fixent sur Adrien. Elle pose sa tasse, se lève et va vers lui.
Monsieur, je m'excuse de vous déranger, mais je suis en difficulté. J'ai un grand service à vous demander.
Adrien la regarde bien. Il est surpris.
Voilà, ma voiture est tombée à panne et je dois me rendre pour mon travail à Pralognan-la-Vanoise. Si vous pouviez me mener jusqu'à Moutier, après je pourrais prendre un car.
Oui, je veux bien.
C'est vrai, merci.
Elle s'assoit à côté de lui.
Faites quoi comme métier ?
Je suis journaliste dans un magazine sur la région. Et vous ?
J'ai une entreprise de prêt-à-porter. Vous voulez partir de suite ?
Terminez votre repas ?
J'ai fini.
Il fait signe au serveur. Le paye. Il va chercher ses affaires et il sort. De plus en plus mauvais. La neige ne tombe pas vraiment car il fait trop froid, mais il tombe du givre. Il se dirige vers la voiture et rentre dedans. Et la voiture démarre. S'est assise à côté de lui. Le manteau, elle l'a enlevé. Le chauffage de la voiture est assez fort. Sa jupe et la façon dont elle est assise font voir ses mollets et les hauts de ses cuisses. Elle lui demande « Vous êtes marié ?»«
Oui, et j'ai deux enfants. »«
Moi, je suis divorcé. Mon mari ne supportait pas que je ne dépende pas de lui. » Il sourit.
« Pourquoi souriez-vous ? » ?»« Parce que moi, ils acceptent tous de dépendre de moi. Je vous assure que ce n'est pas la joie. »
Vous n'êtes pas heureux en ménage ?
Non, pas vraiment.
Il lui raconte sa famille. Puis, elle lui dit « J'ai beaucoup souffert lorsque mon mari m'a quitté. Mais ça devenait impossible à la fin. Il me battait. » Il la regarde surpris.
« Vous battre ?»
Elle sourit. Il dit
« J'aime le givre dans les arbres. Avec le soleil, c'est très beau. »
Vous aimez la nature ?
Oui, beaucoup.
Moi aussi. Des fois, je m'arrête et je passe mon roman à regarder le paysage.
voiture roule doucement. Ce n'est pas facile. Au bout d'un moment, il tombe une véritable tornade de neige. On n'y voit plus rien. La neige givre et tient et devient de plus en plus épaisse. Le givre colle aux vitres de la voiture et l'on n'y voit plus rien. Il est obligé de s'arrêter.
Que faites-vous ?
Nous sommes en pleine montagne. La neige va nous enterrer. Je crois qu'il faut sortir de voiture et chercher à nous abriter. J'ai vu une maison chalet, là, de ce côté. Nous allons aller voir.
Ils sortent de voiture, qui est déjà bien enneigée. Ils mettent leur manteau et vont vers la direction du chalet. Ils ont beaucoup de difficultés pour y aller, car le chalet se trouve en dehors de la route et ils y vont en traversant un champ enneigé. Arrivés vers le chalet, trempés, gelés, ils frappent à la porte. Pas de réponse. Les volets sont fermés. Elle lui dit « Je crois qu'il faut rentrer par effraction, sinon nous allons mourir de froid. » Il tourne autour du chalet. Il voit une fenêtre sans volet. À l'aide d'une pierre qui est contre le mur, il casse la vitre. Il ouvre la fenêtre. Il entre. Va ouvrir la porte à la femme. Il est clair, il y a la lumière. Se déshabille. Dans la cheminée, il y a des bûches. Il y met le feu avec son briquet et il se blottit à côté. Au bout d'un moment, elle sourit et lui dit « Ce n'est pas un article que je dois écrire, mais un roman. Je m'appelle Claudine.
Et moi, Adrien. »
Après s'être échauffée, elle cherche à manger. Elle a trouvé des biscuits. Elle met la boîte entre deux et les mange assis devant le feu. Elle dit « Nous resterons le temps que la tornade durera. » Après avoir mangé un peu, elle se lève et visite le chalet. Bien vers Adrien, elle lui dit « J'ai trouvé la salle de bain. Il y a un chauffe-bain à gaz. Il marche. Je vais prendre un bain. » Et elle y va. Demi-heure plus tard, elle revient vers lui en pyjama rose très court. C'est juste si l'on ne voit pas ses fesses. Elle s'allonge à côté de lui. Les bras en l'air, le sourire aux lèvres, les jambes relevées. Adrien se dit
« Mon Dieu, qu'elle est belle !»
Elle lui dit « Je me sens bien !» Sourit et dit « J'aime l'aventure, l'imprévu. C'est bon la vie comme ça. La routine, c'est pour les imbéciles. » Sourit et dit encore
« En ce moment, c'est comme si nous étions seuls au monde.
Si nous étions seuls au monde, que ferions-nous »
Elle défait la ceinture de son peignoir, l'ouvre.
« Viens !» Il se penche vers elle, la tête en feu.
Les réveille. Elle lui sourit et lui dit
« Ne fais pas cette tête. J'ai voulu te faire un cadeau parce que je me suis dit que tu n'étais pas heureux.
Quand on reçoit un cadeau, l'on doit être heureux et le montrer à la personne qui vous l'a fait. Alors, souris. »
Il sourit, l'embrasse.
« Merci. Les plus belles heures de ma vie, c'est avec toi que je les ai eues. »
Dans l'après-midi, on laissait un mot d'excuse et un billet dans le chalet. Il l'a déposé à Moutier.
Merci. Pense à ce que nous avons fait ensemble. Lorsque tu seras triste, dis-toi que la routine, ça tue. Adieu.
Chez lui, il voit des voitures arrêtées, la police, sa maison en feu.
Mon Dieu !
Il arrête sa voiture devant le portail.
La maison qui brûle, les pompiers, la police, les ambulances.
Sort de voiture et s'apprête à se présenter. Deux hommes qui lui bouchent le chemin parlent devant lui.
Toute la famille a été évacuée. Pas de blessés graves.
On n'a pas retrouvé le père. D'après les domestiques, il serait rentré et monté directement à sa chambre.
On ne le retrouvera plus maintenant. Le corps doit être calciné.
Pour Monsieur Lecoing, C'était un brave homme.
Oui, c'était un brave homme.
Adrien s'approche pour se présenter. Une lumière lui vient à l'esprit. Il se retire sans bruit. Sur la route, seul, libre, sans nom, sans famille, sans travail, libre, libre. C'est la pleine lune, il gèle. Radio Canut vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La liberté du despote. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistré.